Devenu musulman, cet homme avait pourtant reçu un enseignement dans une église évangélique pendant sa jeunesse. Et pour expliquer comment il s'était tourné vers l'islam, qui affirme que Jésus n'est pas Dieu, ni le Fils de Dieu, il explique qu'il n'a jamais reçu d'enseignement sur ce sujet qui l'aurait convaincu. Jésus, Dieu, il faut dire que le sujet touche une dimension qui nous dépasse. On ne peut pas expliquer Dieu et il restera toujours un mystère. Mais ce n'est pas pour autant que notre foi en la divinité de Jésus ne s'appuie pas sur des arguments concrets. Pourquoi croit-on que la Bible affirme que Jésus est Dieu ? Quels arguments répondez-vous à un témoin de Jéhovah ou à un musulman qui vous démontre qu'il est impossible de croire en la divinité de Jésus ? Je vous laisse 30 secondes pour répondre. Quel verset avons-nous en tête ? Pardon ? Jésus dit : « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Jean 1, que nous venons de lire. Oui. L'Esprit nous convainc de justice, de péché, de justice et de jugement. Est-ce que ça prouve que Jésus est Dieu ? C'est ça la question. Jean 3, 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, mais Dieu n'a pas de fils. Hein? Oui, oui. Oui, 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 oui. Tout à fait. Tout à fait, ce sont des arguments, ça. En tout cas, le sujet est trop important, hein, pour que nous passions à côté d'une argumentation qui soit solide malgré tout, sans que j'aie une estime trop élevée des arguments que je vais avancer là. Mais je crois que c'est la Bible qui les donne, et c'est pour ça que c'est important de connaître la Bible et de s'appuyer sur elle. Mais je crois que au-delà du fait d'apporter des arguments à la réalité de la divinité de Jésus, à travers ce rappel de ces passages de la Bible, nous voulons professer notre foi à travers des textes de la parole de Dieu. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, il est le Dieu véritable, comme le dit Jean dans son épître. Nous verrons d'abord les affirmations dans l'Ancien Testament au sujet du Messie, ainsi que dans les écrits des apôtres, pour ensuite nous arrêter sur les affirmations de Jésus lui-même, ainsi que sur les arguments liés à sa vie. Pour terminer, par ce que cela implique pour nous en particulier. Alors d'abord, qu'est-ce que les écrivains de la parole de Dieu affirment au sujet de la divinité de Jésus le Messie ? Les textes de l'Ancien Testament, d'abord, annonce un Messie qui sera de la descendance de David. Donc il sera un homme, un être humain. Mais en même temps, Ésaïe reçoit cette révélation que son essence sera divine. Par exemple, déjà au chapitre 7, verset 14, quand il est question du nom de celui qui naîtra, il s'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Il naîtra d'une vierge, d'une jeune fille vierge. Et il continue en disant au chapitre 9, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Quel mystère donc que cet enfant, ce fils, qui revêtira tous les attributs de Dieu. Il sera appelé Dieu lui-même, tout en étant distinct de lui. Jérémie, en parlant du descendant de David, affirme qu'on l'appellera l'Éternel, notre justice. Michée, en annonçant le lieu où le Messie naîtra, Bethléem, la plus petite des villes de Juda, et non pas la capitale, Jérusalem, hein, dit de lui que son origine remonte au temps de l'éternité. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Jésus, par la suite, reprendra plusieurs textes de l'Ancien Testament pour attester sa divinité. C'est donc déjà remarquable de découvrir dans l'Ancien Testament les affirmations au sujet de la divinité du Messie. Et alors, au sujet du Nouveau Testament, eh bien, les apôtres affirment clairement le fait que Jésus est Dieu. Matthieu reprend l'affirmation donnée à Ésaïe et déclare que le fils de Marie s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous, et que son nom sera aussi Jésus, qui signifie l'Éternel sauve. Jean, donc, au début de son évangile, parle de Jésus qu'il appelle la parole. Et il affirme, la parole était avec Dieu, la parole était lui-même Dieu. Et également, ensuite, qu'il a été le créateur de l'univers. Jésus était là au commencement. Lui a été le créateur de toutes choses. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et puis il y a d'autres textes qui parlent justement du fait que Jésus est le créateur. Par exemple, je cite ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Colossiens, « C'est en lui, en Christ, qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, comme sur la terre. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. » Et Jean terminera donc son introduction, le prologue de l'évangile, en disant « Personne n'a jamais vu Dieu. » Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Dieu, le Fils unique. Il est donc un et en même temps distinct du Père, mais il est Dieu. Et nous avons lu dans le texte que Simone a lu tout à l'heure, à la résurrection de Jésus, la réaction de Thomas, qui s'exclame devant Jésus ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Et Jésus n'a pas dit « Tu fais erreur !» Oui, les disciples attribuent à Jésus les mêmes titres qu'à Dieu. Il est Seigneur, il est Dieu. Et alors, pour les Juifs de l'époque, qui connaissent les noms de Dieu donnés dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, ce sont les mêmes noms qui sont donnés à Dieu l'Éternel comme à Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, parle de celui qui déclare que Jésus est Seigneur. Celui-là, il est sauvé. Et bien donc, quand on déclare que Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'on identifie Jésus à Dieu, au Dieu de l'Ancien Testament. Jean écrira en conclusion de sa première épître, c'est étonnant de voir qu'il commence son évangile en affirmant la divinité de Jésus, il termine sa première épître en affirmant la même chose. Nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus est le Dieu véritable. Il est la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Alors la notion de fils, nous en avons parlé tout à l'heure un petit peu, mais c'est vrai que ça doit être un peu expliqué. Jésus s'est désigné lui-même ainsi, même si c'est rarement, à deux ou trois reprises. Si l'on compare cette expression « fils de » à d'autres mêmes expressions ailleurs, on comprend peut-être un peu mieux la signification. Être fils des prophètes, dans l'Ancien Testament par exemple, signifie qu'on appartenait à l'ordre des prophètes. Ou si l'on était fils des chantres, comme il est dit dans le livre de Néhémie, on était soi-même chantre. Le nom de Barnabas, fils d'exhortation, signifie celui qui encourage. Les disciples Jacques et Jean sont appelés par Jésus fils du tonnerre, à cause de leur caractère impétueux, et non pas parce que leurs parents l'étaient. Même dans notre langue, quand je dis « je suis fils de la France », cela ne signifie pas que je suis fils d'un Français, mais que je suis moi-même Français. Appliqué à Jésus. Être fils de Dieu indique donc qu'il est du même ordre que Dieu. Et c'est une affirmation de sa divinité. Quand Jésus a déclaré « Moi et le Père, nous ne sommes qu'un, je suis le Fils de Dieu », c'est dans l'évangile de Jean chapitre 10, les gens ont compris qu'il s'identifiait à Dieu et alors ils ont voulu le tuer. Ils disaient « Nous voulons te tuer parce que tu blasphèmes, c'est car toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. » En disant « Fils de Dieu », ses ennemis disent « Tu te fais passer pour Dieu ». Dans les Épîtres, Paul définit ainsi Jésus. « Le Christ, dans son humanité, est au-dessus de tout. Il est Dieu béni pour toujours. Amen. » Et quand il dit « Amen », il atteste avec force que c'est une vérité. Christ, Dieu béni pour toujours. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Un mystère, mais en même temps une réalité. Aux chrétiens de Philippe, Paul écrira « Christ, dès l'origine, était de condition divine. Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. » Ou encore, à l'Épître aux Colossiens chapitre 2, « En Christ, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. » À Tite, il parle de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Voilà des titres qui attestent la divinité de Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend le psaume 45. C'est intéressant de voir comment l'auteur, donc c'est au début du chapitre 1er, versets 8 et 9, qu'il reprend ce psaume 45. Au sujet du Fils, Dieu dit, et là il cite le psaume 45, « Ton trône, ô Dieu, » et donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux attribue cette appellation « Dieu » à Christ, « Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Aussi, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi. » Cette reprise de ce psaume 45 donc certifie que Christ est vrai roi, est vrai Dieu. Oui, il est, comme il est appelé dans l'Apocalypse, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors voilà donc des témoignages extérieurs à la personne de Jésus qui, je trouve, sont essentiels pour une bonne compréhension de qui est Jésus et pour pouvoir affirmer déjà que depuis le début, Dieu a annoncé que le Messie c'était Dieu venu sur terre, qui viendra sur terre. Alors voyons maintenant un peu ce que Jésus lui-même a dit sur sa divinité. Les Juifs demandent à Jésus de leur dire ouvertement s'il est le Messie, le Christ. Et Jésus alors leur répond, « Moi et le Père, nous ne sommes qu'un. » Ce « un » ne signifie pas qu'ils sont une même personne, mais qu'il connaît une parfaite unité avec son Père. Et les Juifs, alors, ensuite, veulent le faire mourir en l'accusant, suite à ses paroles, « Tu te fais passer pour Dieu ». Il affirme qu'il possédait, avant de venir sur la terre, comme il est dit au chapitre 17 de l'évangile de Jean, la gloire qu'il avait auprès de son Père avant les origines du monde. En disant « avant qu'Abraham fût, je suis », l'évangile de Jean chapitre 8, il ne dit pas « j'étais ». Il affirme donc naître sans commencement ni fin. Et Jean rappelle ces affirmations de Jésus qui commencent, il y en a sept, par, on en a cité une tout à l'heure, « je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, je suis » qui fait le parallèle avec la définition que l'Éternel avait fait de sa personne à Moïse dans le buisson ardent. « Je suis celui qui est, je suis ». Jésus le dit clairement, comme Dieu, il possède les mêmes perfections. Il sait tout, aucune pensée ne lui est inconnue. Il peut tout, il a reçu tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre, dit-il. Il est partout présent et pour toujours, il sera avec ses disciples tous les jours jusqu'à la fin du monde. On voit en plus dans sa vie qu'il accomplit des choses, des actes que seul Dieu peut faire, comme pardonner les péchés. Et après cette affirmation de Jésus, d'une histoire qui est rapportée au début de l'évangile de Marc, au chapitre 2, les spécialistes de la loi se disent entre eux, ils blasphèment, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Sa vie a été sans péché. Alors c'est certainement facile à affirmer de la part de ses disciples qui cherchaient à le couvrir, qui étaient aveuglés par ce qu'ils voyaient dans leur maître. Mais comment se fait-il que ses ennemis n'aient même pas pu trouver une seule faute en lui ? Et la seule condamnation par ses ennemis, alors qu'ils cherchaient à tout prix une seule faille dans sa vie pour justifier la condamnation à mort qu'ils voulaient prononcer contre Jésus, La seule faille a été relative à sa divinité. Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ? Interroge le grand prêtre. Et suite à la réponse positive de Jésus, tous l'ont condamné. Oui, il a été semblable à nous en tout point, hormis le péché. Et là, il y a de nombreux textes qu'il affirme. Son amour, ses actes de bonté ont révélé sa perfection. Tout en lui était parfait. Alors, comment peut-on prétendre que Jésus n'a jamais déclaré être Dieu ? C'est Jésus lui-même qui l'a affirmé. Ou bien il dit la vérité, ou bien il est fou ou menteur. Tous les témoignages concordent. Ceux de l'Ancien Testament comme ceux du Nouveau, ceux des prophètes et des apôtres comme celui de Jésus lui-même. Alors, qu'est-ce que cela implique pour nous de savoir que Jésus est Dieu ? Il y va de notre salut. Parce que sinon, s'il n'est pas Dieu, son œuvre à la croix ne peut être valable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que l'innocent qui peut se charger de la faute des autres. Si Jésus n'était qu'un homme comme nous, avec ses imperfections, il aurait dû d'abord supporter la condamnation de ses propres fautes. Pour sauver quelqu'un qui se noie, il ne faut pas être en train de se noyer soi-même. Jésus a vécu parfaitement en tout point. Il n'a pas à offrir de sacrifice pour ses propres péchés. Et donc, il a pu mourir à notre place parce que lui-même ne méritait pas la mort. Oui, il est l'agneau sans défaut et sans tache, comme le dit l'apôtre Pierre, qui ôte le péché du monde, comme l'affirme Jean-Baptiste en voyant Jésus arriver. Alors, les anges aussi sont purs, nous dit la Bible. Mais pour pouvoir purifier les péchés de tous les êtres humains, il fallait un sacrifice infini. Et la mort du Fils de Dieu est la seule efficace. Parce qu'il était Dieu, le Christ, et lui seul, a pu offrir un sacrifice suffisant pour compenser, pour prendre sur lui tous les péchés. L'apôtre Paul le déclare, « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, Christ et homme. » Et Christ fait référence à la divinité de Jésus. Parce qu'il est Dieu, Jésus peut accorder avec certitude ce qu'il promet. Un être humain ne peut donner la vie, ne peut donner la guérison profonde, ne peut accorder la paix réelle ni la vie éternelle. Seul le Seigneur le peut parce qu'il est lui-même tout cela. Nous pouvons réellement compter sur lui. Alors, connaissez-vous ces dons? Les vivez-vous avec cette certitude de la foi? Si cela n'est pas le cas, il est peut-être nécessaire de vous rappeler que Jésus-Christ est Dieu, et donc que rien ne lui est impossible, et que lui seul peut accorder ce qu'il promet et donner ses dons. Alors bien sûr, il y a ceux qui refusent de croire en la divinité éternelle de Jésus, qui ont foi dans leur raisonnement humain parce qu'ils rejettent la Bible comme étant la parole de Dieu. D'accord. Mais si nous ne la connaissons pas suffisamment, nous n'aurons peut-être jamais une foi solide et assurée en la vie éternelle avec Dieu. Mais nous ne saurons pas non plus répondre à ceux qui refusent de croire en la divinité de Jésus. Alors, ne perdons pas de vue le fait que l'absence de témoignages convaincus et convaincants peut entraîner des personnes loin de Dieu.